Voilà, Greg Zlap qu'on va retrouver dans 2-3 minutes, juste le temps d'écouter un extrait de son album solo sorti le 2 octobre 2020. L'album s'appelle Rockets, voici le blues du pénitencier. Blues du pénitencier, Greg Zlap, l'album Rocket. Bonjour Greg.
Bonjour Marc.
Ah, vraiment, très heureux de te recevoir dans Sweet Home Chicago. On a entendu quelques notes d'harmonica, j'ai pas rêvé là.
Ah oui.
Et voilà, ça c'est en direct. On est sur le 666, on est bien sur Radio 666, Sweet Home Chicago, numéro 1115 aujourd'hui, avec notre deuxième invité. Tout à l'heure, c'était Nico Wentoussin, interview enregistrée fin août à Coutances. Et là, on est en live avec Greg pour parler de plein de choses. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas parlé avant cette date fabuleuse à Vienne, le 9 juillet dernier, en plateau avec Fred Chapelier, Neil Black. Greg, on est enfin sorti de cette période noire qui a été le confinement. C'est une nouvelle ère, en fait, pour les spectacles, avec le pass sanitaire maintenant. Mais à nouveau, quand même, les prestations live sont possibles. Je voulais savoir, Greg, comment tu as vécu cette période? Quels sont tes sentiments aujourd'hui?
En fait, quand on réfléchit à la musique, donc nous, ce qu'on fait quand on compose, quand on crée de la musique, on pense, enfin moi en tout cas, je pense tout de suite au public. Donc il y a ce côté-là où on fait des choses, on crée des choses, on fait la création, avec cette finalité qui est que la musique va arriver au public, qu'il y a des gens qui vont nous écouter.
Voilà.
Finalement, ça c'est mon moteur, ça a été toujours mon moteur, et c'est pour ça que j'adore le live, j'adore les concerts. Et donc ça, c'est un aspect qui a été très difficile, c'est-à-dire quand on n'a pas pu en fait rencontrer le public pendant très longtemps, c'est très frustrant. Et puis un autre aspect qui est celui que la musique, c'est vraiment quelque chose qui est fait par sa nature pour rassembler les gens.
Ouais,
un concert, c'est un rendez-vous où on se réunit, on est entre l'artiste et le public, on est au même endroit, au même moment, et on vit une expérience ensemble. Donc c'est vraiment du rapprochement social. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où en fait on est plutôt sur la distanciation sociale. Donc c'est exactement l'opposé du rôle en fait de la musique.
Ouais. Et puis
donc tout ce que je souhaite maintenant, effectivement, on va y aller. Alors, il y a des artistes qui reportent encore des tournées, ça arrive encore. Et moi, j'y vais tout de suite puisqu'on peut jouer. Donc je pars en tournée et tout ce que je peux souhaiter, c'est que voilà, il faut qu'on revienne dans les salles, il faut qu'on revive les concerts, mmh, et qu'on se rappelle à quel point c'est essentiel en fait de se retrouver tous ensemble.
Voilà, on aura l'occasion d'évoquer bien sûr ces fameuses dates de la tournée Rock It, hein, de Greg Slapp, de toute l'équipe qui t'entoure. Mais est-ce qu'on peut revenir brièvement sur tes débuts, Greg? Tu es né en Pologne en 1971. À l'époque, c'était derrière le rideau de fer. Tu as grandi au son des disques ou des cassettes, hein, qu'on pouvait trouver difficilement à l'époque. C'est le rock et le blues déjà qui te faisaient vibrer, Greg. Comment est-ce qu'on fait quand on est adolescent à Varsovie dans les années 80 pour satisfaire sa soif de musique?
Alors, heureusement, il y avait la radio.
Oui.
Donc ça c'était quelque chose. Donc j'entendais effectivement de la musique. Il y avait des émissions aussi spécialisées. Donc j'ai pu découvrir quelques titres actuels. Mais par exemple, quand on allait dans un magasin de musique ou chez un disquaire, il y avait que des productions, on va dire locales, avec peut-être un peu de classique. Mais par exemple, trouver un harmonica, c'était quasiment impossible. Et donc, en fait, pour découvrir les choses, il fallait aller au marché noir. Donc c'est ce que je faisais. Et du coup, je pouvais dégoter. Voilà, c'était un petit peu une aventure en fait d'essayer de découvrir la musique. Et c'était très curieux parce que aujourd'hui, on a un accès facile à tout et à toutes les périodes. Il y avait cette quête en fait.
C'est un peu le grand écart en fait. On évoque cette période où on pouvait difficilement trouver quoi que ce soit, et maintenant on a pléthore d'informations avec Internet. Rappelons qu'en 1985, par exemple, Internet n'existait pas, Greg. Il y a un gouffre. Ce sont deux civilisations complètement radicalement différentes, non?
Oui, tout à fait. Et donc en fait, quand je suis arrivé en France, c'était un peu un éblouissement pour moi, puisque je trouvais des magasins de musique avec des harmonicas qu'on pouvait acheter, j'hallucinais. Donc c'était bizarre. Et puis il y avait les magasins de disques où on pouvait trouver tout ce qu'on voulait, et puis il y avait des clubs. Donc la musique live très accessible partout. Donc, si tu veux, moi quand je suis arrivé en France, en Pologne, j'avais cette idée de l'Ouest en fait, qui était surtout pour moi l'Amérique, parce que mon premier contact avec l'harmonica, c'était le blues, ça venait de là-bas, de l'Amérique. Les films que je regardais, c'était toute cette culture américaine. Mais finalement, en arrivant en France, j'ai découvert que cette liberté, l'Ouest, c'est ce que j'appelais l'Ouest, c'était ici en France.
Voilà. Et justement, tu évoques l'harmonica qui t'a chatouillé les oreilles assez vite. Pourquoi cet instrument-là? Pourquoi pas la guitare, la batterie ou que sais-je?
Ah bah c'est un hasard total. c'est un oncle en fait qui m'a rapporté un harmonica d'un voyage aux États-Unis.
Ouais, d'accord.
Et moi, avant de venir en France, je n'ai jamais quitté la Pologne. Donc, cet harmonica, il m'a dit, il faut que tu écoutes ce que font les bluesmen américains avec cet instrument-là. Mmh. Et tous ceux qui ont tenu un harmonica entre les mains pour la première fois l'ont constaté, comme moi à l'époque, c'est qu'on prend un harmonica, voilà, on souffle dedans. Et ça s'arrête à peu près là, quoi.
Ouais.
ça va pas un peu plus.
Donc au début, c'est Bob Dylan, c'est ça, Greg, hein.
Voilà, c'est un peu ça. Et on s'est dit, mais d'accord, bah, et puis quoi, et puis, un jour, donc j'ai entendu Little Walter, un morceau de Little Walter. Et là, ça fait. Donc là.
Eh oui.
Ah, là, c'est pas pareil.
On est dans une autre dimension.
Et surtout, moi, je comprenais pas parce que j'entendais ça. Et je me souviens de cette sensation. Donc, tout de suite, j'ai pris mon harmonica. J'en avais un. J'ai essayé. Et ça donnait pas du tout la même chose. Mm-hmm. Donc, j'en ai conclu que Little Walter trichait.
Ah,
que c'était impossible de jouer ces notes-là avec l'instrument que je tenais entre mes mains.
Rappelons quel âge tu avais à ce moment-là, Greg.
J'avais 14-15 ans, un truc comme ça.
Voilà. Les années, les années d'apprentissage.
Et donc, voilà. Et donc, ça m'a en même temps énervé. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette arnaque-là? Et en même temps, voilà, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il faut que j'arrive à percer les secrets. Donc, c'est devenu vraiment une passion. Au début, plutôt secrète, puisque je jouais dans ma chambre. Et j'essayais d'apprendre à écouter des choses et d'apprendre à l'oreille. Mais je n'ai jamais, voilà, je n'ai jamais pensé un jour, devenir harmoniciste, mais même musicien.
Et encore moins, en arriver là où tu es actuellement, Greg. Tu étais étudiant en informatique à ton arrivée en France, je crois qu'on est vers 1988, c'est à ce moment-là peut-être que tu as pu démarrer ta carrière solo avec pas mal de rencontres musicales en France. Tu es arrivé sur Paris, je crois, dès le départ. C'est à ce moment-là que ta carrière solo a émergé ?
Alors, pas du tout.
Pas encore ?
Pas du tout. En fait, quand je suis arrivé, j'étais au lycée.
Oui.
Donc, j'avais emporté avec moi mon harmonica. Donc, c'était toujours ça ma passion. Je ne savais pas trop. Je sentais que la passion. Et puis j'en jouais beaucoup de l'harmonica, tout ça. Donc, je sentais que c'était ça qui m'attirait le plus. Mais je n'imaginais en aucun cas pouvoir en faire ma vie, quoi. Et effectivement, en arrivant à Paris, j'ai vu qu'il y avait des concerts.
Ouais.
Donc il y avait toute la scène des clubs où on pouvait aller voir la musique. Et un des premiers concerts que j'ai vu, c'était un concert de Jean-Jacques Mizdo.
Voilà.
Et donc c'était mon premier concert d'un harmoniciste en fait que j'ai vu en live.
D'accord.
C'était un choc, mais c'était incroyable. Tu peux pas savoir ce que j'ai vécu parce que je suis arrivé dans le club. C'est un club qui s'appelle Utopia qui existe encore.
Qui existe toujours effectivement. Oui.
Et donc j'arrive, je suis arrivé en avance de 3 heures je crois. Ils m'ont laissé entrer. J'étais tout seul dans la salle et devant moi sur la scène il y avait la mallette d'harmonica de Jean-Jacques Mizdo. Mmh. Donc j'avais jamais vu ça. Il y avait des dizaines d'harmonicas. Et donc j'ai attendu pendant 3 heures tout seul à table. Et puis le concert a commencé. Et c'était un éblouissement. Parce que voir un harmoniciste en live sur scène. En plus, il était entouré des bons musiciens. Parce qu'il y avait, par exemple, Laurent Verneret, que j'avais croisé ensuite sur Johnny, notamment.
Ouais.
À la basse, il y avait des musiciens fabuleux, et puis cette ambiance, et puis ce groupe qui jouait et qui était mené par, un harmoniciste.
Et en fait, j'ai envie de dire bonne pioche, parce que l'Utopia, tu y as passé de longues années, et ça a été un peu le club de l'apprentissage pour toi. Puis Jean-Jacques Milteau, qui entre parenthèses, c'était l'invité de l'émission en avril dernier, hein, pour la sortie de son nouvel album avec Carlton Moody. Jean-Jacques Milteau dit de toi que tu es son fils spirituel.
Ça me touche beaucoup, et moi je me définirais volontiers comme son fils spirituel. C'est vraiment ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on joue de l'harmonica, je veux dire, c'est pas sérieux. Soyons honnêtes, c'est pas un truc sérieux, c'est jouer l'harmonica.
J'essaie d'imaginer.
Voilà. Donc, imagine que tes enfants te disent un jour, papa, plus tard, je serai harmoniciste.
Moi, je serai ravi.
Évidemment. Donc, c'est pas un truc, ça n'existait pas. Et donc, moi qui voulais absolument, qui voulais jouer, qui était passionné, en fait, il y avait pas de chemin tracé. On peut pas s'imaginer un parcours, on va dans une école de musique, et on termine l'école avec un diplôme et on devient harmoniciste. Ça n'existe pas. Et donc, c'est Jean-Jacques, avec sa démarche qui est unique, qui était vraiment le guide pour moi. Parce qu'ensuite, je l'ai rencontré vraiment, après être allé le voir en concert plein de fois, j'ai osé lui parler, donc on s'est vraiment rencontré. J'ai fait un stage d'harmonica avec lui. Et en fait, c'est lui qui m'a mis sur le chemin. Tout d'abord, en me montrant qu'on peut créer quelque chose avec l'harmonica, c'est-à-dire dans le sens on peut mener une carrière, et surtout, on peut mettre l'harmonica en lead d'un groupe. Ouais. Donc, c'est ce qui se passait dans le blues. En fait, c'était les harmonicistes comme Little Walter. Je te parais, c'était mon premier amour, mais en fait, c'était ça qui était incroyable. C'était le leader d'un groupe. L'harmonica était devant. Comme disait Muddy Waters, il disait "Harmonica is the mother of the band." C'est la mère du groupe. Donc c'est cette vision de l'harmonica avec l'importance qu'on peut donner à ce petit instrument. Voilà. Ça, c'est assez unique, parce que en général, les gens voient l'harmonica comme un instrument qui accompagne, qui fait des petits poètes quelque part, mais rarement comme un instrument sérieux qui peut être vraiment au devant de la scène.
Voilà.
Et donc cette vision que c'est Jean-Jacques qui a donné qui a montré que ce chemin-là était possible. Et c'est grâce à lui que je me suis lancé.
Alors en fait, c'est pas vraiment lui qui t'a mis le pied à l'étrier, mais c'était véritablement la confirmation. Et moi, j'avais eu l'impression que tu étais allé le voir dès la première soirée, dès le premier concert, pour le saouler de questions. Et non, en fait, tu as attendu patiemment comme ça de pouvoir t'inscrire à un de ces stages. Ça, je ne savais pas. Je voulais savoir, Greg, vos jeux d'harmonica respectifs, celui de Jean-Jacques et le tien. Est-ce que votre approche de l'instrument est similaire, elle est différente? Qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux?
Il y a beaucoup de points communs qui sont. Tout d'abord, il y a cette volonté que j'ai perçue tout de suite chez Jean-Jacques Milteau, qui est cette vision populaire de l'harmonica. C'est cette vision que l'harmonica peut s'insérer dans plein de styles différents, et qu'il peut toucher un public généraliste. Donc c'est cette ouverture sur l'harmonica et de le porter auprès du public, cette vision à laquelle je souscris dès le début. C'est peut-être pour ça que ça m'a touché. J'ai découvert son album Explorer, qui à l'époque était avec des arrangements très très actuels, avec des musiciens qui accompagnaient toutes les stars du moment, donc un album très moderne, très varié aussi dans le style, dans la palette de ce qu'on peut faire avec l'harmonica. Donc ça m'a ébloui, ça m'a touché.
On a tous en ouais, on a c'est vrai qu'on a tous en tête la pochette, hein, où Jean-Jacques Milteau trouve un harmonica comme un chercheur d'or, comme un orpailleur.
Oui.
Ça c'est vraiment typique, hein, de cet esprit-là, la recherche du son, la recherche de peut-être de la pureté, de la perfection, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la démarche.
Et ça c'est un autre aspect, donc là-dessus aussi. On peut faire un rapprochement entre nos jeux, c'est que Jean-Jacques aussi, c'est un excellent instrumentiste. Il y a ce côté virtuose, il y a un côté technique qui est vraiment poussé. C'est quelqu'un qui repousse les limites de l'instrument. Donc on a à la fois justement un côté populaire de l'harmonica, mais à la fois un truc très pointu. Dans le jeu de l'instrument, dans le phrasé, c'est très précis.
Alors, Greg, tu évoques le côté populaire, effectivement, de l'instrument, mais toi qui es un touche-à-tout et qui ne te cotonne pas à un style ou deux, on peut dire que tu es en train, qu'on te tient aussi personnellement des rapports avec le jazz en général, jazz contemporain peut-être en particulier. Je sais que le directeur de l'Orchestre National de Jazz avait produit ton album Road Movies en 2008 notamment. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec le jazz en particulier ?
Alors, le jazz, comme le blues d'ailleurs, fait une part importante à l'instrument. Il y a l'expression instrumentale. Donc c'est très le jazz est très stimulant en fait dans la créativité. C'est évidemment quand on pense au jazz, on pense à une qualité musicale et à on pense aussi à une performance musicale instrumentale. Donc, et puis c'est surtout, voilà, c'est des musiques très créatives. Il y a un point aussi commun avec le blues, c'est l'improvisation. Dans le blues comme dans le jazz, on laisse beaucoup de place à l'improvisation. C'est de la composition en direct en fait. Oui. On oublie, mais c'est de la création en direct. C'est quelqu'un qui improvise, c'est un compositeur. Et donc ça ce sont des fondements pour moi de la musique. C'est cette créativité et cet échange dans l'instant qu'on peut faire en improvisant.
D'accord.
Et puis pour moi il n'y a pas de frontières. C'est de la musique. Et d'ailleurs par exemple sur mon album il y a ce morceau qui s'appelle Rock It.
Oui.
Qui est un morceau rock et sur lequel j'invite Manu Kodjia, qui est un guitariste, qui est un très grand guitariste de jazz. Et quand on joue ensemble, ça donne quelque chose de nouveau. Ah, ça tient.
Quand on parle de créativité et aussi d'inventivité et d'originalité, j'ai envie de dire, effectivement, le titre Rock It, qui est le titre album, c'est un bon exemple, Greg. Alors le jazz et puis le blues aussi, qui est au cœur des préoccupations et de la passion en fait des auditeurs de Sweet Home Chicago. Greg, si tu devais définir le blues en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'en ont qu'une vague idée ?
Alors pour moi le blues, c'est un langage universel. C'est surtout ça, parce que c'est un langage de l'émotion. Et je sais que peu importe où je vais dans le monde, je vais pouvoir partager du blues avec, je vais pouvoir jouer avec d'autres musiciens. Mmh. Et notre langage commun peut toujours être le blues, que ce soit avec des musiciens de jazz par exemple, ou dans le rock, voilà. Il y a un dénominateur commun. C'est le jazz. C'est le blues,
voilà.
Donc c'est ce langage-là.
Ouais, ouais.
Et bizarrement, c'est un langage qui est très adapté à l'harmonica. En fait, par construction, l'harmonica, c'est vraiment je dirais, ça pourrait être un instrument étendard du blues, parce qu'il il est c'est un instrument très simple. C'est vraiment un symbole, c'est un instrument très simple. C'est un instrument qui se respire. Donc c'est quelque chose de très humain, très naturel. C'est quelque chose qui, c'est un instrument qui véhicule beaucoup d'émotions. Et les notes de blues, en fait, c'est qu'on joue à l'harmonica, ce sont des notes qui n'existaient pas au départ sur l'harmonica. Et donc c'est un mystère complet, mais ce sont les bluesmen qui ont trouvé une manière d'obtenir ces notes-là. De trouver ce son-là avec l'instrument, avec l'harmonica.
Voilà, Greg, l'harmonica, c'est le prolongement naturel de la bouche, mais également d'un côté du cerveau, de l'autre côté des poumons. Enfin, tout le corps est sollicité, bien entendu. Quand on te voit jouer, par exemple, on ne peut pas en douter. Pour revenir sur le blues, pour toi, c'est plus un vocabulaire commun ou une grammaire commune aux musiciens qui pourraient se retrouver sans avoir rien partagé d'autre auparavant?
Oui, c'est ça, parce que quand on parle des styles, en fait, il y a des codes différents, comme des langages différents dans chaque style. C'est, si je voulais, moi, jouer du jazz, il faudrait que je maîtrise tout le vocabulaire jazz pour me considérer comme un musicien de jazz. Pareil, si je voulais jouer de la musique classique, il faudrait que je puisse lire les partitions, ce que je ne fais pas, et que je puisse avoir toute la technique et la capacité d'interpréter les morceaux de classique. Donc c'est encore un autre langage. Et le blues, c'est un langage qui marche, qui se comprend dans tous les styles de musique. Par exemple, je joue souvent, là on va avoir des concerts aussi au mois d'octobre avec Vladimir Kosma. Mmh. Donc là, il faut imaginer le choc des cultures, un orchestre symphonique, les musiques de films de Vladimir Kosma, et puis un harmonica, donc moi, qui joue. Alors moi, mon langage, c'est pas le langage classique, c'est le langage blues. Et pourtant, ça fonctionne. Donc avec ce langage blues, je peux communiquer avec n'importe quel style de musique. C'est ça qui est formidable.
Voilà, donc un instrument universel pour également, entre autres, une musique universelle comme le blues. Et justement, toi, tu as mis, Greg, le pied à l'étrier à des milliers d'enfants. Ça fait des années que tu fais ça. Tu leur offres un harmonica, tu leur apprends à s'en servir. La transmission, c'est quelque chose de très important pour toi. Tu as eu l'occasion de croiser d'anciens élèves plusieurs années après et de constater qu'ils en jouent toujours ou pas encore?
Ouais, alors la transmission, c'est essentiel. C'est quelque chose qui déjà pour moi est important, parce que ça permet de garder les pieds sur terre, en quelque sorte, d'être accroché au fondement de ce que c'est la musique, et de s'accrocher à cette première étincelle qui pour moi, voilà, qui a changé ma vie, c'est-à-dire cette découverte musicale qui pour moi était très excitante. Donc la transmettre, c'est très important. Et j'ai formé effectivement formé, c'est pas un bon mot. J'ai transmis.
D'accord.
J'ai transmis plutôt cette passion à beaucoup de personnes, aussi bien des enfants que des adultes. J'aime beaucoup ça. Et il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont devenus pros, qui étaient peut-être déjà sur le chemin, mais qui sont qui j'ai pu conseiller, et puis qui sont aujourd'hui pros, comme Rachel Place par exemple, Christophe Mahé, ou Charles Pazzi par exemple. C'est des gens qui ont pris des cours avec moi et qui ont leur propre carrière aujourd'hui. Donc ça, je suis très fier de ça. Et puis il y a tous ceux qui sont très nombreux qui n'ont pas la vocation ni peut-être l'envie de devenir professionnel, mais qui ont découvert cette passion. Et ça c'est génial. Je reçois tous les jours des messages justement de ces enfants.
Ah oui, donc c'est ça, tu as des nouvelles.
Il y avait des gamins qui, je les ai vus, ils avaient 5 ans ou 7 ans. Et aujourd'hui, je reçois un message, voilà, ils ont peut-être 20 ans ou plus, ils disent, ah, on se souvient, j'ai toujours gardé mon harmonica, parfois je souffle dedans, et j'ai gardé un bon souvenir de ça. Donc ça me touche énormément, et ça montre que, voilà, cette passion, cette étincelle a été transmise.
Voilà. Greg, pendant qu'on parle, on est en direct et il y a également des gens qui nous suivent à la radio et sur le groupe Facebook Sweet Home Chicago, et notamment Patrice Rayon. Patrice Rayon qui écrit notamment l'école d'harmonica à New York, c'est un élève de Greg. Celle de Londres, c'est aussi un élève de Greg.
Tu
savais ça? L'école d'harmonica à New York, c'est un élève de Greg, dit-il, et celle de Londres aussi, c'est un de tes élèves.
Ah oui, de Londres, je savais. De New York, c'est Monique, c'est ça?
Je ne sais pas, il ne met pas de nom, je ne connais pas. Patrice, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu le fais, tu peux nous préciser le nom.
Oui, je crois que c'est ça. Il y a Greg Miller qui est un de mes élèves, effectivement, qui est à Londres.
Qui est à Londres, oui.
Et peut-être il veut parler de d'Yvonique Prenet, qui a pris des cours aussi, et qui, lui, joue du jazz, justement, au chromatique. Et je sais qu'il est à New York.
D'accord.
Donc c'est génial, non?
Ah bah oui, alors franchement, là, ça s'appelle plus SMA, ça s'appelle moissonner et puis récolter les fruits, effectivement, de tout ce que tu as semé. Greg, on va aborder, juste après un extrait de ton album Rocket, on va aborder d'autres choses. D'abord, bien sûr, on parlera de l'album, on parlera également du livre que tu as sorti, 2 ans, Sur la route avec Johnny, 282 concerts, 10 ans de complicité, et puis on parlera, bien sûr, de ton actualité et des prochains concerts, la tournée Rocket. En attendant, voici un nouvel extrait, c'est le solo de Gabriel. On se retrouve dans, moins de 3 minutes avec Greg. On est en direct sur le 666. Voilà, le solo de Gabriel qu'on a entendu en première heure tout à l'heure, en entier, version Les Vieilles Canailles, et ici sur l'album de Greg Slapp qui s'appelle Rocket. Toujours au téléphone avec Greg Slapp en direct sur le 666. Ça va, Greg?
Oui.
Tu as repris ton souffle. Ah, franchement, voilà, belle performance. Je crois savoir, il y a des choses qui figurent dans ce fameux bouquin, je crois savoir une petite anecdote justement sur ce titre-là. On va parler de ce livre que tu as sorti voilà deux ans, qui fourmille d'anecdotes. On y découvre, pour ceux qui le connaissaient mal peut-être, un Johnny Hallyday à dimension humaine, quelqu'un d'affable, très prévenant, sensible, presque fragile même parfois. On y voit aussi la confirmation d'un boss qui est bien dans son rôle, hein, Johnny Hallyday, mais qui délègue généreusement aux gens à qui il fait confiance. Je pense que durant les 10 années où tu as joué avec lui, Greg, tu as fait partie de ceux qu'il n'a jamais trahi ou ceux qui ne l'ont jamais trahi. Au fond de toi, Greg, qu'est-ce qui te reste de l'homme, Johnny, et que t'as-t-il appris en tant qu'homme?
Alors, oui, déjà le nom de Johnny Hallyday m'était inconnu parce que j'ai grandi en Pologne. Donc je connaissais pas l'existence de Johnny. Et quand je suis arrivé en France, tout ce que je connaissais de Johnny, c'était une pub, je crois. Enfin, pas une pub, mais c'était un clip où on les voyait faire de la musculation. Et puis, il y avait les marionnettes, là.
Les guignols de l'info.
Les guignols de l'info, voilà. Ouais. Donc voilà, donc c'était ça.
À que coucou,
voilà. Donc c'était tout. Donc en fait, quand je suis arrivé chez Johnny, dans son groupe, j'étais complètement vierge en fait. J'avais les oreilles fraîches. Je ne connaissais pas les morceaux et je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Voilà. Donc en fait, peut-être aussi c'est pour ça que cette relation est devenue telle qu'elle était, puisqu'en fait j'étais un outsider total.
Oui, t'étais pas un fan transi comme ont pu l'être des artistes qui l'ont accompagné tout au fil de sa carrière. Tu sortais un peu de l'œuf, c'est ça, par rapport à ce monde.
Voilà, et puis du coup, j'avais pas cette appréhension de parce que tous les Français ont grandi avec Johnny, avec la musique de Johnny. Mmh. Donc c'est un monument. Hein. Donc en fait, je pense qu'une personne normale a peur de toucher au monument, alors que moi j'arrivais en quelque sorte avec des gros sabots en disant, moi je connais pas Gabriel, par exemple, ce morceau Gabriel. Quand on l'a joué la première fois, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Je demandais, mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi Gabriel? Je ne sais pas. Donc en fait, c'était tout de suite avec Johnny une relation humaine. Et à notre première rencontre, ça résume tout en fait. À notre première rencontre, il me dit. Greg, est-ce que tu joues sur les Marine Band?
Oui, alors voilà. Ça, c'est la référence, ça.
Voilà, donc personne ne sait ce que c'est que le Marine Band. Lui, il savait. Ouais. Le Marine Band, c'est l'harmonica de blues par excellence. C'est un modèle particulier. Mmh. Donc, il le connaissait. Donc, il m'a accroché comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux? On a discuté. Moi, je dis, comment tu connais ça? Et ben là, on s'est mis à discuter du blues. Et des artistes, des bluesmen avec qui il a joué, qu'il a croisé. Et donc on a tout de suite eu un langage commun qui était l'amour de cette musique-là, et cette culture du blues et des artistes de blues, de cet instrument que personne connaît, lui visiblement il connaissait, puisqu'il connaissait, il savait bien ce qu'on pouvait faire à l'harmonica. Et donc c'était très loin de l'image qu'on peut se faire de Johnny. C'est ce monument, de cette idole qu'on peut pas approcher, tout ça. Nous, notre relation était bâtie sur la musique tout de suite.
Ouais, voilà.
Et donc c'est ça qui me reste, cette simplicité, cette relation très saine et très, très musical.
Et ça transparaît hein, dans tout l'album, dans tout le recueil hein, chez Hors Collection qui s'appelle donc Sur la route avec Johnny. 282 concerts, 10 ans de complicité. Enfin, en tout cas, 281 concerts avec Johnny. Et le 282e, c'est celui de la Madeleine, hein, où tes amis musiciens et toi disaient adieu à Johnny en décembre 2017. Ça laisse forcément des traces profondes d'avoir vécu ces 10 années-là. Je voulais savoir, au niveau artistique, pour toi, Greg, ta façon de te tenir sur scène, elle était chamboulée, je crois. Qu'est-ce que tu as appris de Johnny en tant que musicien, en tant que performeur également?
Effectivement, donc la scène et Johnny, c'est quelque chose de magique. Donc, c'est une grande chance en fait de pouvoir observer, même juste ça, observer des coulisses, comment Johnny abordait la scène. Mmh. C'est quelque chose d'incroyable. Je me suis imprégné de ça parce qu'il pouvait se passer n'importe quoi. Il pouvait être malade, il pouvait avoir des soucis. Au moment de monter sur scène, Johnny s'est transformé. Mmh. Et il s'est donné à 200% à chaque concert. Donc ça, cette force-là, cette exigence du spectacle, ce respect du public, il y a très peu d'artistes, je pense, qui ont encore cette vision-là.
Et ça, c'est quelque chose que tu retiens pour toi-même, pour tes shows futurs.
C'est quelque chose que j'ai compris. Je n'ai plus jamais joué. C'était avant et après Johnny pour moi.
Tu l'as pas seulement compris, tu l'as intégré en fait.
C'est ça. En fait, moi, avant de jouer avec Johnny, j'étais toujours. J'adorais la scène. J'étais très attiré par le. Enfin, j'aimais beaucoup le contact avec le public, que ce soit dans le club comme Utopia où je jouais très très régulièrement. Donc c'est pas une question de taille de salle, mais j'avais toujours ce plaisir d'échanger ces rapports de vouloir aller vers le public.
Voilà, d'aller vers les gens.
Mais il y a des choses. Voilà, il y a des. Mais il y a des choses qui me semblaient démesurées ou ridicules. Par exemple, j'allais pas à l'Utopia dans un club me mettre à genoux, me rouler par terre en jouant. Ça semble disproportionné et ridicule. Ouais. Et en jouant avec Johnny. J'ai compris qu'il n'y a pas de limite, en fait. Ouais. C'était ça, la leçon. Johnny, il ne se donnait pas de limite. C'est-à-dire, un show, c'est quelque chose de sacré, de spécial, et il faut se dépasser.
Greg, ça c'est quelque chose que tu as appris, que tu as intégré bien sûr maintenant dans ta façon de mener tes propres shows. Et dans ce livre Sur la route avec Johnny, on constate cette flagrante complicité que vous avez qui dépasse l'amitié. Certains ont dit que rares sont les grands artistes qui savent mettre en valeur certains de leurs musiciens. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête? Moi, je pensais à Clarence Clemens aux côtés de Bruce Springsteen, Olivier Durand auprès de Elliott Murphy par exemple. Il y a d'autres exemples forcément, mais où est-ce que, à ta connaissance, c'était unique, c'était à ce point unique, ta complicité avec Johnny Hallyday?
En fait, je pense que pour qu'il y ait une complicité comme ça entre un artiste et un musicien, il y a deux choses. La première chose est que l'artiste, ou le chanteur en l'occurrence, il doit être complètement engagé et ne pas avoir peur. Parce que si on a peur qu'on lui fasse de l'ombre, ça marche pas.
Oui, voilà.
Avec Johnny, par exemple, c'était très clair. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, on lui ferait jamais de l'ombre. Ouais. Donc il n'y avait pas ce danger-là. Avec un artiste qui n'est pas très sûr de lui, ça pourrait être embêtant d'avoir... un musicien qui l'écraserait quelque
part. Qui lui
part.
Prend la vedette, donc, voilà, donc, effectivement.
Ouais. Donc ça peut pas marcher. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc ça marcherait pas. Et deuxième chose, c'est que si ça peut pas arriver avec un musicien qui serait juste interprète en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est, si vous donnez une partition à jouer, vous ne pouvez pas avoir cet échange, en fait, avec quelqu'un qui ne fait qu'interpréter. Donc ça veut dire que s'il y a cet échange avec un musicien, et c'est vrai dans les exemples que tu as cités, c'est que le musicien, le saxophoniste ou le guitariste, ils sont créateurs. Donc ne serait-ce que ils sont improvisateurs, ils sont créateurs. Donc c'est des compositeurs, en fait. C'est des gens qui ont cette fibre créatrice et qui permet justement un échange musical. Et avec Johnny, j'ai vu ça parce que ça se passe dans l'instant. Quand on est pendant le show, voilà, il y a ce moment unique. Et ça, c'est pour ça que j'adore le live. C'est que c'est des moments qui se répètent jamais. C'est ce rendez-vous. Il y a le public, il y a l'instant. Et là, il faut réagir. Donc c'est là où ça se crée, où ça se crée pas. Et avec Johnny, donc c'était comme un, effectivement, c'était comme un duo. C'est devenu sur Gabriel, sur le show de Gabriel.
Eh oui, bon exemple.
C'était quasiment un duo, ouais, qui était improvisé, aussi bien aussi bien musicalement, mais dans la chorégraphie sur scène, en quelque sorte, c'était un combat, c'était une improvisation. C'était comme un ballet, quoi, quelque part.
Ouais,
mais c'était une interaction dans le moment. Donc ça veut dire que c'était une création à chaque fois.
Et là, Greg, on n'est pas du tout dans l'intellectualisation de la musique. Tu le dis toi-même, on est dans l'instant, on est dans le moment présent, on est dans le concert, on est dans le show. Tout peut arriver, tout peut se produire. Et quoi qu'il coûte, il faut quelque part rester un peu dans l'ombre de l'artiste, de la vedette, qui était Johnny Hallyday, qui lui te poussait au pied du public et sous les projecteurs pour que tu aies ton moment et quel moment, notamment ce solo, quoi.
Oui, c'est ce que je disais. Johnny, il ne demandait que ça. C'était, lui, il poussait,
ouais,
pas seulement moi, mais il avait cette attitude de dire, moi, je fais partie du groupe. Il se voyait comme le chanteur d'un groupe, donc il s'insérait en fait dans l'ensemble des musiciens. Et il respectait énormément la qualité musicale des musiciens, donc il s'entourait toujours très bien. Et justement, il poussait, voilà, il poussait. Mais il fallait aussi avoir le cran de moi, je me souviens des premiers instants. Enfin, ça se résume aussi à mon premier, la première fois que j'ai fait le saut de Gabriel. Donc je jouais, j'ai improvisé, et il est venu me voir, il me dit, mais Greg, tu ne vas pas rester planté comme un piquet derrière ton micro quand on va faire le show.
Voilà.
Et là j'ai compris, je me suis dit, ok, donc c'est pas j'y suis pas du tout. Il me demande pas juste de bien jouer, de faire un solo. C'est pas ça qu'il demande. Il me demande un engagement, et il me demande de faire le show.
Voilà.
Donc tout de suite, je lui ai dit, Johnny, je te promets, je vais faire le show, et puis je me roulerai par terre s'il le faut, mais je le ferai. Et je lui ai promis ça, tout en me demandant comment j'allais faire, parce que je ne savais pas. Et effectivement, quand on a fait des répétitions, je me suis dit, bon, là, c'est quitte ou double. Donc, je lui ai promis ça, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Voilà.
Et donc là, je me suis dit, bah, il faut, tant pis, même si je suis ridicule, j'y vais. Donc je me suis mis à bouger, à danser. Effectivement, sur les soirs de Gabriel, je me suis mis à genoux. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, peut-être c'est complètement débile et je suis ridicule. Et voilà, la répétition finie. Johnny fait des remarques aux musiciens. Il leur dit, voilà, toi, attention, bouge pas comme ça. Donc je me suis dit, ça passait comme ça, on passait en revue les différents musiciens.
Tu t'es dit, ça va être mon tour.
Et je me suis dit, ça va être mon tour, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit, Greg, toi, ne change rien.
Wow.
Continue comme ça. Et donc là, j'avais le feu vert, et donc je me suis dit, bon, bah, c'est ça qu'il veut, donc il faut le challenger, et je peux y aller. Donc c'est, voilà, c'était une grande libération en quelque sorte, Et j'ai compris. Enfin, c'est une autre vision de la scène que j'ai depuis ces moments-là.
Voilà. Greg, c'est fabuleux la façon dont tu racontes ça. Je renvoie les auditeurs à ce livre hein, qu'on peut toujours trouver, bien sûr, sorti il y a 2 ans chez Hors Collection, qui s'appelle Sur la route du blues avec Johnny, 282 concerts, 10 ans de complicité. Il nous reste quelques minutes pour parler ensemble de cet album Rocket, qui est sorti le 2 octobre 2020, un album contemporain, foisonnant de couleurs, dans lequel le blues n'est pas absent, bien sûr, mais qui passe au second plan, on va dire, et où l'harmonica, bien sûr, tient le premier rôle. Greg, j'ai envie de te demander quels adjectifs conviennent le mieux pour décrire cet album. Je t'en propose 5. Sincère, brillant, coloré, généreux, osé.
Ah, je les prends tous. sincère, c'est bien, sincère. Oui. mais j'ai, oui, je les prends tous.
Sincère, brillant, coloré, généreux, osé. Voilà, tout ça.
Je reste sans voix. C'est à chaque fois, enfin, un album, c'est à chaque fois une espèce d'aboutissement.
Oui.
Et surtout, enfin, là, on parlait de cette période particulière. Il a été fait en bonne partie pendant le confinement.
Il y a énormément d'invités, Greg, sur cet album. La liste, justement, ça semble être le fruit de plusieurs années de rencontres, de multiples univers qui s'entrechoquent. Malgré la multiplicité des styles sur l'album, on constate quand même, à l'écoute intégrale, hein, une certaine unité. Il y a une direction artistique qui fait la colonne vertébrale de l'ensemble. Il y a le réalisateur, producteur Pierre Jaconelli, qu'on peut citer, producteur et instrumentiste dans ce regroupement de ces 13 titres qui figurent dans Rocket. Un album à la gestation particulière, tu viens de le souligner. Est-ce que c'est un album qui va rester de façon particulière dans ta discographie perso?
Alors c'est toujours. J'ai appris aussi ça. Au fur et à mesure, au début, je faisais tout sur mes albums. Ouais. Au début, je composais, je produisais, je pressais les albums moi-même. je trouvais les concerts, voilà. Et ensuite, j'ai compris que c'est très important, donc une fois qu'on a composé, c'est de prendre du recul et donc de faire appel à quelqu'un qui va mener le bateau en quelque sorte. Et donc ça c'est très important sur cet album. J'ai fait appel à Pierre Jaconelli, donc qui est un grand réalisateur. J'y suis allé un peu au culot parce que j'avais rencontré il y a assez longtemps pour une séance d'harmonica, où il m'avait appelé, mais c'est lui, il a travaillé beaucoup avec Johnny, justement il a réalisé des albums pour Johnny, par exemple Allumer le feu, c'est lui qui l'a arrangé. Il travaille avec Benjamin Biolay.
Voilà. Ouais.
Donc voilà. Donc c'est un grand gars. Et en fait, voilà, je suis arrivé avec tout le matériel que j'avais, les compositions. Et à ce moment-là, se pose la question, bah, comment on va le présenter au public? Qu'est-ce que tu veux transmettre en public, c'est quoi ton message? Et là-dessus, quand on est tout seul, on peut facilement se perdre parce qu'on a beaucoup d'envie. C'est difficile de choisir un axe, quelque chose de qui réunit en fait cette expression.
Voilà, et puis il y a le regard extérieur qu'on n'a pas forcément, même si autour de soi on a tous des amis qui peuvent nous conseiller. Là, c'est un producteur professionnel qui te donne une direction.
Voilà, et en fait ça commence par des discussions. On a eu beaucoup de rendez-vous en fait, de discussions sur les musiques qu'on aimait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on pourrait choisir, quel acte, voilà. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, tout roule en fait, parce qu'on a une, justement comme je disais, il y a une colonne vertébrale et on suit en fait cette ligne là, et ça permet d'avoir justement un message clair et à la fois une variété à l'intérieur de d'émotions et voilà. de peut-être de style, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas une variété de d'émotions qui vont toutes dans la même direction. Donc c'est
voilà, Greg, tu as très bien défini effectivement l'essence de cet album, de ton album, et on peut citer quand même les musiciens, même si on n'aura pas le temps de détailler. Il y a des invités, il y a des guests comme M, comme Alice Paul, qui elle est plutôt une comédienne au départ, Amy Keys, qui était choriste pour Johnny. On peut citer également Indira Sfer, le guitariste de jazz Manu Kodidja, Tété aussi. Voilà, tout ce monde-là figure dans cet album qui s'appelle Rocket, qui est sorti il y a presque un an maintenant et qui était bizarrement passé à côté de la programmation de Sweet Home Chicago. Ça va être rattrapé, bien entendu. Et puis, je pense que l'actualité, Greg, c'est la tournée Rocket Tour hein, qui défend les belles couleurs de cet album. Les prochaines dates, c'est comme un nouvel envol pour toi, non ?
Oui, c'est, j'attends ça avec impatience. On commence le 25 septembre et puis on a les dates qui vont s'enchaîner.
Voilà, on peut en citer quelques-unes. 25 septembre, donc Tremblay-sur-Mauldre, Nancy Jazz Pulsation le 9 octobre, Lausanne les 13 et 14 octobre, la Maroquinerie à Paris, pour les Parisiens, ça les intéresse aussi, le 22 octobre, à Tours, au Palais des Congrès, le 13 novembre, et puis plus près de chez nous, ici en Normandie, à L'Aigle, dans l'Orne, le 16 novembre, c'est ça Greg ?
Oui, c'est ça.
Alors,
on va peut-être se revoir là-bas.
Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très loin de chez nous. On va peut-être se revoir là-bas, effectivement. Greg, je voudrais te remercier pour tout ça, pour ta générosité, pour la façon dont tu réponds à toutes ces questions qui sont pour certaines très précises. en dehors d'évoquer cette carrière que tu as eue pendant 10 ans avec Johnny, on est revenu sur ce disque, on a évoqué tes débuts. C'est jamais complet une interview, mais effectivement, il faudrait compléter avec ta discographie personnelle. Je crois que tu en es à 6 albums sous ton nom, c'est ça ?
Ouais, si tu le dis.
Il m'a semblé, sauf erreur. Écoute, je voudrais te souhaiter une bonne route, merci. Et puis bravo pour ton grand cœur et ton talent, vraiment, parce que un grand merci voilà, pour avoir participé à ce 1115e numéro de Sweet Home Chicago. On ne sera pas sans se revoir, Greg. Je te le fais la promesse.
Et n'oublions pas que c'est essentiel voilà, d'écouter, de parler de notre passion commune et allons voir les concerts maintenant.
Effectivement.
C'est un acte de foi et il faut y aller.
C'est le mot de la fin, Greg. Merci pour tout. Merci, à très vite. Au revoir, Greg. Voilà, ce fameux solo qu'on peut retrouver sur l'album Rocket. Et puis, j'ai envie de dire aussi et surtout, la reprise, peut-être pas surtout, mais aussi, on va signaler ça au passage dans cet album Rocket, cette reprise de Queen, un truc qui me plaît bien, qui s'appelle We Will Rock You.
We will rock you.
Greg Zlap à travers cet album Rock It, We Will Rock You. Greg Zlap, l'album avec M, avec TT, avec Alice Paul, inclut le solo de Gabriel et puis cette version de We Will Rock You. Tiens, je voulais en guise d'écho pour vraiment terminer cette émission, il nous reste 30 secondes, on va écouter une autre version de We Will Rock You, celle de Miguel M dans l'album A New Day. On était en 2005 et on se quitte avec ça. Merci encore à Greg Zlap. Merci à Nico Wentoussin, première heure également pour ces deux interviews. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de 13h pour un nouveau numéro de Sweet Home Chicago sur le 666. Salut, bye bye.